Vous écoutez 18h20, l'émission sur France Culture. Il est 18h20, l'heure de retrouver le reportage de la rédaction. Le sujet en est l'affaire Tarnac. On retrouve Antoine Marette. Il est à la Maison de la Radio.
Oui, le 11 novembre dernier, 10 personnes étaient interpellées dans une affaire de sabotage de caténaire de la SNCF, 72 heures plus tôt. Toutes ont été désignées comme faisant partie des milieux de l'ultra-gauche. On a même parlé d'une mouvance terroriste à l'échelle européenne. Qu'en est-il vraiment? C'est la question que s'est posée Laurence Perron. Notre reporter est allé à Tarnac, dans le Limousin. Elle a rencontré les membres du comité de soutien aux inculpés et vous allez l'entendre, 10 jours après les faits, il semble que cette affaire ait été quelque peu gonflée.
Donc maintenant je peux vous serrer la main. Comment allez-vous?
Nous sommes le 11 novembre, il est 10h, place Beauvau. Michel Alliomari et le PDG de la SNCF ont convoqué les journalistes pour une conférence de presse.
Le ministre non plus, peut-être un peu.
Donc, ce matin à l'aube, 10 personnes appartenant à l'ultra-gauche mouvement anarcho-autonome ont été interpellées. Je veux souligner que l'opération de ce jour a été rendue possible par le travail de renseignement effectué à ma demande depuis plusieurs mois par la direction centrale du renseignement intérieur. Ces individus se manifestent, se caractérisent par un rejet de toute expression politique démocratique et par un discours extrêmement violent. Ce sont des personnes qui, pour un certain nombre d'entre elles, avaient été effectivement repérées au cours de ces derniers mois dans des circonstances qui nous faisaient craindre qu'il puisse y avoir des passages à l'acte violent.
À 500 km de là, Tarnac, sur le plateau des Mille Vaches, 350 habitants, réveillés au petit matin par un assaut des forces de l'ordre, digne d'un démantèlement d'un réseau de l'ETA.
Grosso modo, 150 policiers qui sont descendus.
Michel, du comité de défense des inculpés de Tarnac.
Tout le monde encagoulé avec des armes, un hélicoptère, des chiens, la police scientifique. La perquisition a commencé à 6h du matin. Les journalistes étaient présents déjà pratiquement depuis 7h30, 8h. Des journalistes qui, pour la plupart, venaient de Paris, ce qui laisse vraiment comprendre que les journalistes sont venus avec les policiers. Dès le début, il y a eu un certain nombre de termes qui ont été lâchés, qui ont servi en fait à créer une ambiance de crainte autour du groupe. Donc les termes d'ultra-gauche, terroriste, groupuscule, nihiliste, ça a été l'électrochoc qui a lancé le coup médiatique, un déferlement de termes très très violents. Dès le début, il y a eu la création du chef, quoi. Donc Julien, qui a les chefs d'inculpation les plus durs, qui risque jusqu'à 20 ans de prison, il a vraiment été présenté comme une espèce de fou, de gourou, qui traînait derrière lui une bande de crétins qu'il avait endoctriné dans une ferme en Corrèze où il se cachait.
En fait, centre du village, il se cachait au centre du village.
Ouais. Enfin, ce qui est vraiment curieux, c'est que les enquêteurs sur place, j'imagine qu'ils ont bien dû rapidement se rendre compte qu'ils venaient d'arrêter un épicier, qu'ils avaient arrêté des gens que les villageois connaissaient, qu'ils étaient intégrés dans la communauté, qu'ils n'avaient aucune raison de se cacher et qu'ils ne se cachaient de fait pas du tout. L'enjeu, ça a été dès le départ, de diaboliser les gens qui ont été interpellés. Et donc pour ce faire, il y a vraiment eu la constitution du truc groupusculaire, ultra-gauche. Par exemple, la création de la figure diabolique de Julien, elle est entièrement liée à ce qui a été écrit.
C'est pire que ça, c'est dans les fameuses lois, les lois antiterroristes à la suite du 11 septembre, on peut voir que peut être terroriste simplement un groupe qui partage des idées. C'est suffisant, c'est de dire ils ont écrit ces livres-là. Et d'ailleurs, vous voyez bien, à telle page, on dit sabotage des lignes SNCF et tout ça, et de vraiment monter tout ça en épingle. Potentiellement est terroriste celui qui possède ce livre.
On exhume Tikkun, la revue de réflexion à laquelle ont collaboré certains des interpellés. On décortique L'insurrection qui vient, l'ouvrage signé du comité invisible aux éditions de La Fabrique, disponible légalement dans toutes les librairies depuis l'an dernier. De fins analystes de la chose révolutionnaire mettent encore en cohérence les assertions du ministère de l'Intérieur et des séquences militantes récentes. On définit les contours d'une mouvance anarcho-autonome née en marge des rassemblements altermondialistes du début des années 2000, les contre-sommets, celui de Gênes notamment, le mouvement contre la loi Fillon ou encore la bataille contre le CPE.
Il se passe un truc comme ça parce que la jeunesse en a marre, on vit ça tous les jours. C'est sûr, plus les conditions sont dures et extrêmes, on va vers l'extrémisme et c'est ce qui se passe et je trouve ça tout à fait normal et tout à fait rationnel du point de vue sociologique.
On est là pour ça aussi.
La Sarcothèque est en marche.
Mesdemoiselles, messieurs, on vous demande de regagner les métros et de rentrer chez soi.
Qu'est-ce que ça coûte un coup de poing, franchement, contre la libération des générations futures?
La connotation terroriste est tout à fait déplacée et absolument hors de proportion, enfin au sens même de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la notion de proportionnalité, notion juridique maintenant.
Irène Terrel, avocate de 4 des 9 mises en examen de Tarnac.
Ni au sens juridique, ni au sens de la définition juridique du terrorisme, c'est-à-dire combattre par l'intimidation et la terreur. Donc je pense que ni en ce sens-là, ni au sens, je dirais, du droit commun, ni en bon sens, on est dans une matière et dans un domaine où le terrorisme pouvait être invoqué comme il l'a été. Alors j'ajoute que c'est une affaire quand même qui est strictement politique, qui a été totalement instrumentalisée, et là-dessus je suis extrêmement choquée puisque tous les principes et les droits élémentaires ont été bafoués, présomption d'innocence, caractère exceptionnel de la détention provisoire, parce que je voudrais quand même dire que juridiquement, parmi ces 5 personnes qui sont détenues, bon j'en défends 4, mais je vais parler des 5, aucune ne devrait être aujourd'hui en détention provisoire, je dis bien aucune. Il s'agit de jeunes qui ont tous un casier judiciaire vierge, des garanties de représentation, pour certains du travail, pour d'autres des responsabilités familiales, une enfant de 3 ans, des problèmes médicaux aussi pour certains. Donc aucun de ces gens-là, au regard des simples faits pour lesquels ils sont poursuivis, qui, je le rappelle, sont des dégradations. Et je veux bien même aller jusqu'à mettre la circonstance aggravante en droit de réunion. Alors disons, dégradation en réunion. Voilà ce qu'on leur reproche. Des dégradations qui, au dire même des responsables de la SNCF, ne mettaient en cause une vie humaine et qui entraînaient simplement, par dégradation, des retards dans les trains. Donc voilà exactement ce qu'il leur est reproché.
C'est une affaire gonflée, c'est une affaire pour diverses raisons, mais c'est une affaire qui est vraiment, moi qui me paraît, sans commune mesure avec la réalité des faits. Quoi.
Christophe Bourseiller, journaliste et écrivain, observateur des mouvements politiques.
Alors peut-être qu'en un sens, ça a un effet un peu étrange et paradoxal, c'est de mettre en lumière les écrits de haute tenue littéraire, de haute tenue intellectuelle, de la revue Tikkun, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a fait 2 numéros, mais qui était une très intéressante revue, et d'ailleurs qui était en vente dans toutes les librairies littéraires de la capitale et d'ailleurs. Et puis ça permet également de parler de ce livre assez étonnant qui s'appelle L'insurrection qui vient, qui a été signé par le Comité Invisible et qui est un texte très beau qui se situe dans l'héritage de Guy Debord et dans l'héritage des situationnistes et qui est irrigué d'une sorte de désespoir diffus. C'est l'idée que toute révolte collective est sans espoir et que seule demeure la possibilité d'une vague fédération de gestes individuels mais sans vraiment y croire. Enfin, c'est un texte très intéressant, L'insurrection qui vient. Donc, qu'ils aient voulu utiliser ces sabotages de façon symbolique pour gripper la machine d'État, pour marquer leur haine de la machine ou de l'État, probablement. Mais de là à faire de ces gens-là de futures actions directes, là, je crois qu'on en est très loin. On est très loin de ça.
Il s'est passé 10 jours, l'emballement médiatique retombe manifestement. Peu de quotidiens oseraient à présent barrer leur une d'un tonitruant « l'extrême-gauche déraille ». On peut toutefois s'interroger sur les raisons qui ont conduit le pouvoir à désigner de cette manière une sorte de nouvel ennemi de l'intérieur. Éric Hazan dirige les éditions de La Fabrique.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond, l'antiterrorisme n'a rien à voir avec le terrorisme. L'antiterrorisme, c'est un moyen de gouvernement. C'est un moyen de tenir une population sous contrôle et de l'habituer aussi. Je pense que c'est très important qu'elle s'habitue. Et c'est très important de lui trouver des boucs émissaires. Là, on est en train de construire, parmi les gens qui ont été arrêtés, on est en train de construire, par la voix des médias et par la voix du procureur de la République et du ministre de l'Intérieur, un personnage, celui qui est central dans cette affaire, un personnage qu'on présente comme le gourou médiatique, le gourou charismatique d'une secte violente. Ça joue sur ce réflexe de peur qui est assez légitime en ce qui concerne tous les précaires, tous les pauvres, tous les fragiles. C'est normal qu'ils aient peur en ce moment. Et on leur dit, voilà, on a trouvé l'ennemi intérieur, on l'a coffré, donc au moins de ce point de vue-là, vous pouvez être tranquille. D'ailleurs, l'arsenal répressif, l'arsenal militaire répressif dont j'ai dit un mot tout à l'heure, je pense que sa cible inavouable, c'est précisément les banlieues. D'ailleurs, on le voit bien quand on voit le matériel qu'ils ont accumulé, les drones pour éclairer les toits la nuit, tout ça, c'est du matériel anti-banlieue. Mais ce n'est pas dissible. On ne peut pas dire « nous nous préparons parce que la révolte des banlieues va reprendre et on veut la mater d'entrée de jeu ». Donc, il faut légitimer tout cet arsenal en inventant un ennemi intérieur identifiable et dissible.
À 7h, 9 personnes restent mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 5 sont toujours incarcérées. Tout risque, en l'absence de requalification, des peines qui peuvent aller jusqu'à 20 ans de réclusion.
Enquête signée Laurence Perron.